11h, 12h30.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1. Il n'a pas été l'anniversaire d'Elisabeth II ce dimanche pour se venger. Il a décidé de ne pas l'inviter à sa crêpe party ce samedi soir. Jean-Philippe Pizzini.
Bien sûr, je l'inviterai jamais. Bonjour les amis, bonjour à tous.
C'est le vendredi saint, elle n'a pas trop compris le concept. Alors on ne lui en voudra pas de ne pas avoir mis deux soutiens-gorge.
C'est pas vrai, si
j'aurais
pas, il tombe.
Je trouve ça très sexy, moi j'aime beaucoup.
Bouleversé par l'incendie de Notre-Dame ce week-end, ouais. Elle a décidé de faire la tournée des monuments de France. Il espère juste que Gérard Collomb le laissera entrer chez lui. Bel âge.
J'ai l'image là, bonjour à tous.
Celle qui adore la fête de Pâques, oui. Parce qu'en tant que végane, c'est la seule fois où elle peut manger des œufs de poule et des lapins.
C'est vrai.
La chocovore Christine Béroux.
Bonjour, bonjour à tous. Et celle qui, cette année, pour Pâques, a décidé d'être raisonnable et de manger qu'un seul œuf en chocolat parce qu'elle a l'intention de perdre 3 kilos pour l'Olympia où elle jouera mardi prochain, la gourmande Anne Romanoff. Ouais.
Enfin, 3 kilos en 4 jours, je ne sais pas si je vais y arriver.
Bah si, tu manges rien.
Ouais, mais après, je vais tomber dans les pommes sur scène.
C'est vrai.
Au sommaire de cette émission, Jean-Philippe Bizini nous expliquera pourquoi il appréhende son départ en vacances.
Oh là là.
À 11h30, nous recevrons le chanteur Kinvé, qui fête ses 10 ans de carrière avec un nouvel album Thérapie. Christine Mirou lui racontera qu'elle est un peu la thérapeute de l'émission.
C'est vrai.
Et à partir de 11h50, Jacques Attali sera notre invité pour son livre Histoire de l'alimentation, paru mercredi aux éditions Fayard. Ben H évoquera son parcours et la Londo lui a préparé une interview aux petits oignons.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Le gouvernement a lancé un site pour la collecte des dons pour la reconstruction de Notre-Dame et a annoncé que les particuliers bénéficieront d'un nouveau seuil de 75% de déduction fiscale jusqu'à 1000 euros. Est-ce que vous allez faire un don? Et à part d'argent, vous avez déjà fait des dons en nature? Avec quoi? À qui ou quoi vous aimeriez faire un don?
Bah moi, chaque année, je fais un don à une association, mais je crois que je vais arrêter car j'ai l'impression que mon argent est mal utilisé.
Ah bon, et comment s'appelle cette association?
Les impôts.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Édouard Philippe a annoncé ce mercredi qu'un concours international d'architecture serait organisé avec pour objectif de reconstruire la flèche de Notre-Dame. Alors avant de refaire une flèche pour Notre-Dame, la priorité ce serait pas d'en trouver une pour la mettre au gouvernement.
Tinder détrône Netflix et devient l'application la plus rentable. De lire Tinder et Netflix dans une seule et même phrase, ça me fait tout drôle. J'ai pas l'impression de lire une info, mais mon programme du week-end.
Ce week-end a lieu le Viva Las Vegas Pin-Up Contest, le plus grand concours international de pin-up. Franchement, ça me dépasse. Moi, je comprends pas comment on peut s'intéresser à ce genre de choses. Hein.
Bah, pourtant, tout à l'heure, tu me disais que tu regrettais qu'ils fassent pas ça en France.
Oui, mais là, ma femme écoute. Et moi, les pin-up, ça m'intéresse pas du tout, sincèrement. Hein.
Fais gaffe, tu baves. Ah. Hier, Emmanuel Macron a reçu les sapeurs-pompiers de Paris à l'Élysée. Voilà, on espère que les soldats du feu ont eu l'occasion de montrer au président comment on maîtrise un incendie autrement qu'avec des promesses.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizini, Léa Landau, Ben H, Christine Béroux et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour deux personnes en château hôtel 4 étoiles en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Yeah. Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Ben H, Léa Landau, Christine Béroux, Jean-Philippe Bizini.
Bonjour.
Vous êtes en pleine forme, Léa Landau.
Ah bah oui, moi je suis en pleine forme. Vous savez pourquoi?
Non.
Parce que c'est communicatif le bonheur et Ben H me transmet le sien.
Ah, parce que ouais, Ben H est heureux en amour.
Je suis une sorte de phare dans la nuit du célibat de Léa.
Oui, c'est vrai, il me redonne espoir.
Ça fait 3 semaines maintenant.
Ça fait 3 semaines.
Oh là là.
C'est énorme.
Bah on fait la première écho demain.
Christine, vous êtes bien pimpante.
Ah oui. Bon, d'accord, je suis ravie de la prendre. Bah, j'ai pas dormi, mais ça va.
Pourquoi vous n'avez pas dormi?
Parce que ma fille ne dort pas. Mais c'est super parce que ce week-end, c'est un an. Et donc, j'ai invité une petite dizaine d'enfants.
Oh, tu vas en
chier. Dont le cumul des âges n'est même pas égal à mon âge. Donc, c'est super. Non, mais c'est merveilleux. J'ai commandé une pièce montée vegan à l'effigie de nos chats.
Oh, ils vont adorer.
J'arrive pas à croire que je fais partie de ces gens-là. Et, voilà. Et elle ne se rappellera pas.
Mais non, c'est ça qui est fou.
s'en rappeler. Et alors, il y a fait une pêche au trésor, il y a une chasse au trésor.
Bah, c'est des petits enfants, donc on va étaler tous les jouets. Et puis, j'ai acheté une quinzaine de ballons d'hélium. Donc, ouais. Ça va être sympa.
Ils vont j'ai
fait une playlist avec des chansons.
Voilà.
Et il y aura un coin par an avec de l'alcool. Voilà.
Il ne faut pas se planter.
L'alcool, c'est vegan, par contre. Ça
bah oui, bah ça, c'est super.
C'est ça les arrange.
Et c'est quoi, il y a quoi sur la playlist des 1 an de votre fille?
Alors, j'ai mis les chansons de Disney en jazz.
Comme ça, t'as pas mis NTM?
Ah, la bonne idée. Voilà, qu'est-ce que j'ai
mis? Baby Shark.
Le papa pingouin.
Ah bah super, donnez-moi des idées. Non, j'ai mis des choses audibles quand même. J'ai mis par exemple Alain Souchon, j'ai 10 ans, tout ça, les petites chansons un petit peu comme ça.
Ah ouais, ils vont bien
s'éclater.
J'ai
mis des chansons pour enfants.
Et c'est comme si tu vas te déguiser en fée pour les accueillir.
Non, mais par contre, comme en fait c'est un anniversaire sur le thème de la forêt enchantée, donc il y aura des oreilles d'animaux.
Qu'est-ce qu'elle prend comme drogue? Moi, je voudrais juste essayer ce qu'elle prend, juste un week-end pour voir ce que ça donne.
Tous les invités auront des oreilles en carton.
Ah,
dis donc. Et nous, on n'est pas invités.
Bah non, mais attends.
Oh, c'est dommage.
C'est pas très grave.
J'aurais tellement aimé pas venir.
On a invité que les amis proches, et tous les amis proches, et c'est presque tous des humoristes. Et je me suis dit, peut-être, comme vous, ce serait comme venir au travail. Donc, mais sinon, vous êtes les bienvenus. Hein, vous êtes,
Écoute, je regarde mon agenda, je te réponds dans 3 mois.
On va jouer au jeu quand même. Comment s'intitule le jeu, Christine?
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Romanoff.
Devinez qui je suis. Le principe est simple, 2 auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué la semaine. Grâce à Europe 1, tentez de gagner un séjour pour 2 personnes au cœur du Beaujolais, au magnifique château de Pizet. Ce château hôtel 4 étoiles est l'un des plus grands domaines viticoles de la région, entre Brouillé et Morgon. Vous serez accueillis en suite duplex au cœur de 80 hectares de vignes, de jardins à la française, de tourelles médiévales, d'une grande cour d'honneur, d'une piscine extérieure et d'un cours de tennis. Le château de Pizet vous proposera de vous détendre au spa, de découvrir les crues du domaine, c'est pas vous Léa, de vous initier à l'œnologie, si vous le souhaitez, de prendre vos repas au restaurant gastronomique du château. Vous pouvez découvrir le domaine sur château-pizet.com.
Voilà, j'ai tellement envie d'y aller là-bas.
On joue avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour à toutes les...
Bonjour Stéphanie.
Bonjour. Des Choco Pops ce matin. Vous, hein.
Stéphanie, vous avez 44 ans, vous êtes secrétaire d'un collège à Bonneuil-Matour. Là, en ce moment, vous êtes en vacances avec des copines à l'île de Ré.
Ouais, d'ailleurs, elles vont crier pour vous montrer qu'elles sont là. On y va.
Ok, je veux l'adresse immédiatement. Je pars avec Ben H à l'île de Ré.
Vous avez combien de copines là qui sont avec vous?
3.
Oh, on peut les entendre. On peut les entendre crier.
Mais bien sûr, je vous les repasse. Oui.
Et c'est quoi un enterrement de vie de jeune fille?
Pas du tout, c'était un petit week-end sans les enfants, sans le mari, et voilà.
Ah, et du coup, sans le mari, c'est-à-dire c'est 1 pour 4.
C'est ça.
Ah, bah, cool.
Et alors du coup, vous sortez, vous faites la fête, vous faites quoi?
On prend l'apéro, on va à la pêche au couteau, on fait du vélo, de la marche, enfin.
Voilà, je pars à l'île de Ré sur le coup. Moi,
allez, on vous attend.
Vous êtes avec votre mari depuis 20 ans, vous êtes rencontrés.
Bah, tu m'étonnes.
Vous êtes rencontrés dans une fête foraine.
Ouais.
Ah, c'est romantique.
Ah ouais. Comment ça, il faisait l'auto-tamponneuse, il vous a rentré dedans? Comment ça s'est passé?
Non, il lui a offert son chichi.
Non, je l'ai vu au loin et voilà, il était beau, donc bah, j'ai été l'accoster. Puis du coup, bah, on est toujours ensemble.
Ah, vous l'avez été l'accoster?
Mais
vous lui avez dit quoi?
Bah, je lui ai dit que je pensais qu'on se connaissait. Et puis c'est vrai, en plus, on se connaissait. Donc, et puis on a passé la soirée ensemble. Et puis bah, du coup, ça dure depuis 27 ans.
Mais 27 ans.
27 ans et vous avez 44 ans?
Ouais.
Bah, dis donc.
Bah oui, 17 ans. Vous l'avez rencontré.
17 ans.
Mais c'était votre premier?
Ouais.
Bah Léa, mais t'es bien indiscrète.
Mais non, enfin.
Ouais, mais c'est le meilleur.
Ah, ah
bah ça, vous en savez rien. Tu savais pas de point de comparaison.
J'en sais rien, mais ça dure du coup dans le temps quand même.
Ouais, ouais. Non, mais c'est génial.
Jamais retourné à la foire du coup.
Eh ben la foire n'existe plus.
Ah, bon, mais on a
Christine, quand on trouve le bon du premier coup, on n'a pas besoin, on le sent, on n'a pas besoin de comparer.
Mais bien sûr.
Voilà.
Et vous, vous savez de quoi vous parlez, parce qu'évidemment. Voilà. Excusez-nous, Stéphanie.
Ah bon. Je ne comprends pas cette allusion, Christine. De quoi vous. Voilà. Stéphanie, vous jouez avec qui?
Alors, vu qu'on n'a pas d'homme dans notre lieu de vacances, je vais prendre Ben H.
Ah,
je ne l'ai pas vu venir du tout, là.
Vous prenez la liste 1 ou la liste 2?
Alors, je vais prendre la liste 1.
La liste 1. Attention, donc, ce sont des personnalités qui ont marqué la semaine. Attention, vous êtes prêtes?
Ouais.
Top chrono.
Ok, c'est la femme de l'ancien président des États-Unis, la femme de Barack.
Michelle Obama.
Ouais, c'est le maire de Lyon, ancien ministre, plutôt âgé comme monsieur. Maire de Lyon.
Coulon.
Ouais, c'est ça. C'est un acteur belge qui joue dans Le Boulet, qui est plus grand acteur.
Poulbarde.
Ouais. Elle jouait dans, on s'en fout. Il a fait la Star Academy, c'était un agitateur, et il était avec Jennifer, la toute première Starac.
Ah, Jean-Pascal.
Ouais, c'est ça. C'est un violoniste qui a joué devant Notre-Dame au petit matin, mardi. Non, ça va être dur, ça.
C'est dur.
Ouais, c'est une gilet jaune, la représentante des gilets jaunes au début, elle est rousse. Elle était venue dans l'émission ?
Non, je sais pas.
Non, elle a joué dans Plus belle la vie, elle sort des bouquins de, sur l'endométriose.
Milano.
Non, c'est Laetitia Milo. Laetitia Milo, quatre bonnes réponses.
C'est pas mal.
Ah, mais il y avait la suite de la.
Mais oui, il y avait la suite.
C'est traite, cette deuxième page.
Alors, vous n'avez pas trouvé Gauthier Capuçon qui a rendu hommage à Notre-Dame en jouant du violoncelle et pas du violon, n'est-ce pas ?
Ah, pardon, j'ai pas vu le
sel. Et
non,
le
Benache.
Je suis désolé.
Et Ingrid Levavasseur qui est une gilet jaune. Alors, c'est bon, ouais. On a 4 bonnes réponses.
C'est pas mal.
C'est pas mal, on va voir comment.
C'est pas mal, mais.
La liste 2 est dure.
Ouais. Ah ouais,
mais c'est vrai.
Bon, ah ben on croise les doigts alors.
Non, je trouve pas.
Non,
je la trouve vraiment facile. On va voir comment se débrouille Yanis. Bonjour Yanis.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour. Salut, bonjour. Yanis, vous avez 29 ans, vous êtes guichetier dans un cinéma à Bordeaux.
Le rêve.
Oui, je suis multitâche dans le cinéma, oui.
Vous faites quoi ? Vous donnez les pop-corns, les...
Aussi, voilà, c'est ça, voilà.
Et vous voyez des films en douce ou pas ?
Non.
Non ? Oh ! Vous voyez pas, vous avez pas le temps de voir des films, du coup ?
Si, je vois beaucoup de films, mais pas... Enfin, voilà.
Ah ouais, c'est comme travailler dans une boulangerie et pas pouvoir manger des pâtisseries, hein.
Oui, si on veut, oui.
Et vous mangez des Esquimaux, Yanis ?
Qui dit encore Esquimaux ?
Bah oui,
j'ai pas entendu ce mot depuis les années 80.
C'est mais arrêtez !
Vous mangez des bâtonnets glacés ?
Oui.
Mais ça comment se met dans le
frigidaire. On dit des glaces.
Bah oui, mais bah au cinéma, on dit des Esquimaux.
Non, il y a des cornets aussi.
Ouais, un magnum.
Vous savez,
ouais, c'est
un magnum. Oui, mais c'est un Esquimaux.
C'est vrai qu'Esquimaux, ça se fait plus du tout.
On a des pipos, on a des magnums, voilà, des choses comme ça.
Vous dites pas Esquimaux non plus ?
On disait,
non.
Yanis, vous avez un compagnon depuis 2 ans ?
Oui, c'est ça.
Oui, vous l'avez rencontré lors d'un anniversaire ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Et ça a été le coup de foudre ?
Immédiat, c'est clair.
Qui a dragué qui ?
C'était en commun, vraiment, c'était un coup de foudre, vraiment en commun. C'était,
personne n'était bourré, on est d'accord ?
Non, personne.
Genre, vous êtes regardé, tout le monde s'est mis à vivre au ralenti, vous êtes rapproché, il y avait du vent dans les cheveux et vous êtes embrassé.
Qu'est-ce que t'es romantique, Benach ?
Il sentait bon, il était musclé.
Du coup, ouais, vous avez même pas mangé le gâteau. Il avait un super regard. Enfin, c'était, voilà.
Comment il s'appelle ?
Anthony.
Et vous dites qu'avant, vous aviez collectionné les râteaux ?
Oui, plutôt.
Ouais.
Et donc, un conseil pour Léa ? Ça peut être utile, Léa.
C'est
gens qui nous appellent
raison.
Qui ont une expérience.
Ouais. Alors, un conseil ?
L'espoir fait vivre, c'est ça, Yanis.
Il faut aller aux anniversaires.
Ouais, c'est ça, en fait. L'espoir fait vivre, c'est clair.
Non, mais on dit toujours, ça vient toujours quand on ne s'y attend pas. Donc, quand vous êtes allé à cet anniversaire, vous ne vous y attendiez pas du tout ?
Exactement, c'est la première fois que j'ai eu un coup de foudre, en fait.
Oh là là.
Il y a comme ça, ouais. Première fois.
Yanis, vous jouez avec qui ?
Christine.
Ok.
Ah, Christine.
Faut faire plus de 4, hein, ce qui est largement possible.
Grave. Attention. De personnalités qui ont marqué la semaine, top chrono.
Il est du FN, c'est le père de Marine.
Jean-Marie Le Pen ?
Oui. I'm single, c'est la femme de Jay-Z.
Beyoncé ?
Oui, elle est connue pour rien, elle est mariée avec Kanye West et elle fait des Instagram, elle est très populaire.
Kardashian.
Oui, c'est la femme de Nicolas Sarkozy.
Carla Bruni.
Oui, et le beau-fils de Carla Bruni qui sort une marque de chaussures.
Je sais pas.
Bon, c'est un grand acteur français, il était en couple avec Romy Schneider, il parle de lui à la troisième personne.
Alain Delon.
Oui. Elle est chroniqueuse sur TPMP, elle a l'endométriose aussi, une blonde qui parle très fort.
Et Nora Malagré ?
Oui
ouais.
Bravo.
Wow, ah bah là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses et vous n'avez pas trouvé Louis Sarkozy, vous avez gagné.
Yes, merci, c'est
cool.
Ça va.
Yanis, vous avez gagné un séjour pour 2 personnes au cœur du Beaujolais, au magnifique château de Pizet. Ce château hôtel 4 étoiles est l'un des plus grands domaines viticoles de la région. Entre Brouilly et Morgon, le château de Pizet vous proposera de vous détendre au spa, de découvrir les crues du domaine, de vous initier à l'œnologie et si vous le souhaitez, de prendre vos repas au restaurant gastronomique du château. Plus d'infos sur château-pizet.com.
Bravo. Eh ben nickel, merci beaucoup, c'est génial.
Bravo Yanis.
Vous allez partir avec Anthony, j'imagine.
Ah ben avec Anthony, c'est clair, ouais.
Oh là là. là.
Stéphanie, désolée.
Je suis très très déçue. Oh.
C'est un peu de la faute de Benache.
En même temps,
Benache.
Ouais, ben, je suis d'accord.
Bah, il est amoureux en ce moment, alors ouais, il est pas au top de ses capacités.
Il n'y a pas d'excuse.
Peut-être un petit lot de consolation quand même.
Oui.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez comme lot de consolation?
JP pour le week-end?
Oh, peut-être pas.
Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Moi, je sais pas. Tout me fera plaisir.
Bah, moi, éventuellement, j'aurais pu vous offrir des places pour l'Olympia. Mais
pour toutes vos copines, mais bon, vous allez venir.
Ah ben, si vous nous offrez pour toutes nos copines, on est 8 normalement.
Ah oui,
donc faut que tu loues le Zénith.
Comment ça,
du
vous
coup.
Êtes 8, c'est-à-dire vous étiez 3 là.
On est un groupe de 8, mais on est 4 là actuellement, et il y en a 4 qui n'ont pas pu venir. Mais sinon, on est 8 très bonnes copines et on fait tout, on fait des week-ends ensemble comme
bon,
ça.
Bon bah banco, on se donne rendez-vous mardi.
Bah ouais, c'est Benache, il paye la moitié des places.
Bon, bah, vous voulez venir à l'Olympia mardi?
Mardi là, ça fait peut-être juste quand même.
Ah bah oui, mais je joue mardi.
Est-ce qu'on peut peut-être pas décaler l'Olympia?
Ah ouais. Bah ouais, je me doute bien, mais là ça va être trop. Fin juin à Poitiers? Le 30 juin.
À Poitiers?
Oui. Ouais.
Alors ok.
Et puis on viendra vous faire la bise.
Ok, ça marche.
Oh là là, elles sont complètement pétées. Hein.
Elles sont géniales.
Bon, bah, on se voit le 30 juin à Poitiers, Stéphanie.
Alors, on se voit le 30 juin, super, merci. Ouais.
Bah, attends, on me dit que c'est le 28 juin, mais enfin, vous serez là.
Eh ben 28 juin, bah allez. 28 juin, allez.
Est-ce qu'elles ont des cuvées d'ici là?
Prenez pas l'apéro super. Avant de venir, hein. On vous embrasse.
Eh ben on vient prendre l'apéro alors. Ah, ouais.
Allez, on vous embrasse.
À bientôt.
On vous embrasse aussi.
Gros bisous.
Au revoir.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 39-21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Landau, Benache, Christine Bérou et Jean-Philippe Bizigny qui nous expliquera pourquoi il appréhende son départ en vacances.
Ah oui.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Ben H, Léa Landau, Christine Bérou, Jean-Philippe Bizigny. Ce week-end, c'est Pâques. Qu'est-ce que vous avez prévu? Vous allez faire la chasse aux œufs, Christine?
Ah non, mais moi, vous savez, je suis contre la chasse.
Ah non, mais là, il s'agit de chasser du chocolat.
Quelqu'un aurait un fusil? Jean-Philippe?
Ah ben, nous, chaque année, on envoie les enfants faire la chasse aux œufs en forêt, la nuit, tout seul, sans leur torche.
Mais c'est très dangereux, vous n'en avez jamais perdu un?
Ben non, pourtant, c'est pas faute d'essayer.
Ben H?
Oui, moi, je vais aller chasser les œufs dans le jardin de mon père pour ma petite filleule qui fêtera en plus ses 3 ans pile ce dimanche.
Votre filleule? Mais c'est pas un peu irresponsable de vous nommer parrain d'un enfant, Ben H?
Ouais, c'est ce qu'ils se sont dit aussi quand je vais faire à la petite un saut en parachute pour ses 2 ans.
Jean-Philippe Bizigny, vous allez prendre la route pour partir en vacances, ça vous angoisse?
Ben oui. Évidemment, on va partir avec toute la famille pour les vacances de Pâques. Et pour l'occasion, on a loué un minibus pour mettre tout le monde dedans. Les enfants, les copains des enfants, les beaux-parents. Bref, rien que d'y penser, j'ai envie de me pendre. L'année dernière, c'est mon beau-père qui avait voulu conduire. Il a appris à conduire dans les années 60. À l'époque, il n'y avait pas de limitation de vitesse. À un moment donné, je lui ai dit « Mais beau papa, vous n'avez pas peur qu'on vous retire votre permis ?» Il me dit « Ça risque pas, le permis, je l'ai jamais eu. » Oh. L'année dernière, ça faisait même pas une heure qu'on était partis. Les gamins, on veut aller aux toilettes. Oh. On s'arrête sur l'aire de repos. 10 minutes plus tard, on était repartis. Une demi-heure après, ma femme qui crie « Il en manque un !» J'y dis « Lequel ?» Elle me dit « Le plus petit !» Bon, on a fait demi-tour. Si ça avait été la grande, je peux vous dire qu'avec tout l'argent de poche qu'elle me pique tous les mois, elle aurait pris un Uber pour nous rejoindre. Et si c'était ma belle-mère, on s'embêtait pas, on l'a récupérée au retour. Alors cette année, j'ai mis une galerie sur le toit du minibus. Ma femme me dit « Mais on a assez de place dans le coffre pour mettre tous les bagages. » Je lui ai dit, c'est pas pour mettre les bagages, c'est pour accrocher ta mère. Le médecin lui a prescrit du grand air, et en plus, vu qu'elle fait de l'aérophagie, avec un peu de chance, on va consommer moins d'essence. Alors à tous ceux qui nous écoutent et qui s'apprêtent à partir en vacances, je vous souhaite bonne route et surtout, bon courage.
Soyez prudents surtout.
Bien sûr.
C'est bientôt Pâques, hein,
ah
oui.
C'est vrai.
Oui, et j'ai appelé une pâtisserie pour passer une commande d'œufs un peu spéciale.
Fourré.
Allô ?
Oui, bonjour madame.
Bonjour madame.
Je suis bien à la chocolaterie.
Oui ?
Je voudrais commander des œufs de Pâques en chocolat avec une forme un peu spéciale.
Oh ! Oui, donc vaut mieux passer au magasin alors.
Bah, je vous explique quand même, vous me dites si c'est possible.
Allez-y, dites.
Alors je voudrais un grand tube avec deux boules.
Un grand ?
Tube, tout droit, puis en dessous deux boules. Deux œufs.
Et deux œufs, un grand tube avec deux œufs.
Deux œufs collés, oui.
Oula. En chocolat, comment, lait, noir?
Chocolat au lait, puis les noisettes. Enfin, je veux dire, les œufs en praliné.
Non, ça on fait pas.
Pourquoi?
Attendez. C'est une dame qui veut faire une commande d'un chocolat. Elle veut un chocolat en tube, avec deux œufs pralinés au bout. Comme je dis, on fait pas ça. Non, on fait pas, madame.
Bah, je mets le prix, madame.
Oui, non, on fait pas. Faut passer au magasin, faut prendre ce qu'il y a au magasin.
Mais même si je donne 1000 euros.
Oula. La dame, elle est prête à mettre 1000 euros pour qu'on lui fasse n'importe quoi. Alors, attendez, je vous la passe.
Allô ?
Oui.
Oui, bonjour, je suis la patronne.
Ah, bonjour, madame.
Écoutez, je sais que vous êtes prête à mettre le prix. C'est très gentil à vous, mais tous les chocolats sont faits. On n'a plus de pâtissier. C'est mon mari qui fait les chocolats, qui va être à la pâtisserie.
Mais ce que je demande, c'est simple, c'est juste un tube, voyez, bien dressé, puis en dessous, deux œufs collés.
Non, ça va pas être possible.
Voyez pas qu'est-ce que ça représente?
Non, du tout, en plus. Non, c'est vraiment quelque chose... Non, je vois pas du tout.
Bah, un gros tube bien droit, puis deux œufs collés.
Oui, mais ça, on n'a pas le moule pour faire un tube.
Bah, vous collez plusieurs jeux, puis ça fait un gros tube.
Non, mais non, madame, je suis désolée.
Je vous explique, c'est mon ancien ami, puis je voulais... Enfin, je ne veux pas dire le mot, mais je voulais lui offrir une bistouquette en chocolat.
Oui, mais je suis désolée.
Et il aurait vu ça, il aurait dit tout de suite, c'est Fernande, puis il m'aurait appelé.
Je suis désolée, madame, non, on ne fait pas.
Ben vous aimez les bistouquettes quand même.
Bah écoutez, j'ai pas droit souvent, donc je m'en passe.
Bon, je suis sûre que vous allez convaincre votre mari.
Non, je suis désolée, madame. Alors là, je peux vous dire qu'il va m'envoyer bouler comme il faut.
Attendez, j'ai juste une idée. Si on prenait une baguette, d'accord, on la coupe en deux, on la recouvre de chocolat.
Mais écoutez, madame, vous avez plein d'idées. Faites-la vous-même.
Mais je voulais passer par un spécialiste.
Pourquoi faire?
Bah, que ce soit mieux fait.
Bon, attendez, vous avez... je pense pas qu'il soit aussi doué que ça pour ce genre de choses, je suis désolée.
Elle est pas douée en bistouquette, votre mari?
Pas vraiment, non.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ah là là.
Je ne sais pas.
Il n'y a pas de droit souvent.
Moi, je me demande où tu vas trouver tes idées,
bah
quand
oui,
même.
Je
hein.
ne sais pas non plus.
Ouais, ouais.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.
Avec la bistouquette en chocolat.
Avec Jean-Philippe Busigny, Christine Méroulé, Alain de Benach. Et notre invité, le chanteur Kinvé, qui fête ses 10 ans de carrière avec un nouvel album, Thérapie.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 avec Ben H, Léa Londo,
oui,
Christine Bérou, Jean-Philippe Visini,
bonjour.
Et notre invité qui est un chanteur qui fête déjà ses 10 ans de carrière, 10 ans à collectionner les tubes et les disques de platine, 10 années partagées avec un public toujours plus nombreux. Ils sont 2 millions sur Facebook, 1,5 million sur Twitter, 250 000 abonnés Instagram, 800 000 sur sa chaîne YouTube,
wow.
500 millions de vues. Il soigne ses fans avec Thérapie, un album où il se livre et se délivre. Faites du bruit pour Kinvé.
Ouais. Merci, bonjour.
10 ans de carrière, Kinvé.
Ouais.
Ça vous étonne?
Oui, je suis le premier étonné. Ouais.
Ouais.
Bah si, c'est rigolo parce qu'à la base j'ai fait ça pour parce que j'avais envie, puis c'était plus une blague qu'autre chose, et puis la blague s'est transformée en...
Vous étiez DJ au départ, en
ouais,
fait.
Ouais, ça, j'ai fait DJ en boîte de nuit, et puis après je me suis dit que c'était marrant de chanter en plus sur les morceaux que je passais.
Vous parliez un peu comme ça, est-ce que vous êtes chaud ce soir?
Non. Ça c'est un mythe, ou alors c'était dans les années 80, ouais.
Vous disiez quoi qui levait pour chauffer les gens dans les soirées?
Bah je faisais lever les mains, tous les trucs d'ambiance de base. Sans faire cette voix-là.
Ah, vous faisiez pas cette voix-là?
Non.
C'était quoi votre tube phare pour faire danser les gens à l'époque?
À l'époque, c'était Température Sean Paul.
Ah ouais.
Ouais. Ouais, j'avais une boîte, j'avais une salle un peu raga ouais. pour ça.
Et alors vous êtes passé de ça, donc DJ, boîte de nuit, tout ça, et tout d'un coup vous avez posté vos vidéos sur YouTube.
C'est ça.
Et c'est comme ça que le public vous a plébiscité, Kinvé.
Ouais, c'était grâce à Facebook. J'avais le Skyblog à l'époque même, et puis YouTube. Et on, au fur et à mesure, les gens commençaient à aimer. Ils me demandaient d'aller dans d'autres boîtes de nuit pour chanter. Donc j'ai commencé à faire ça dans ma Normandie à moi.
Parce que vous êtes à Rouen et ouais. vous vivez toujours à Rouen.
J'habite toujours à Rouen. Ouais.
Seine-Maritime représente.
C'est ça, 7-6.
Et alors, vous prenez tout le temps le train Paris-Rouen ?
Non, je prends la voiture. J'aime pas le train.
Ah, vous n'aimez pas le train ?
Non, ils sont toujours en retard.
Ah oui, ça, ouais. le Paris-Rouen ouais. est très en retard. On peut en parler.
C'est une catastrophe.
Non, mais une fois, je suis arrivée après mon spectacle.
Il y avait quelqu'un d'autre qui jouait.
Non, non, pas après le spectacle, mais après le, début. Après le début du spectacle. Mais le train s'est arrêté en pleine voie. À côté de Rouen, mais on n'avait pas le droit de descendre ni de reculer. Ni... Enfin, j'étais bloqué en fait.
Ouais, ouais, c'est tout le temps. C'est non, tout le
si
temps.
Vous pouvez faire quelque chose.
Ah, non, Romanov qui va jouer à Rouen.
Quand vous êtes chez vous, vous êtes souvent en jogging.
Oui, je
et quand, parce que vous avez des chiens.
Ouais.
Et vous dites que quand vous sortez dehors, vous faites l'effort de ne pas être en jogging au cas où on vous demande un selfie.
C'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je vois où t'as sorti ça, mais c'est bien. Ouais, ouais. C'est vrai. Non, fait, je ça sert à rien que je m'habille chez moi. J'ai trois chiens, dont deux qui bavent énormément.
Oh. Ouais,
bah, j'ai un dog de Bordeaux, un dog allemand. Donc ça fait un peu 12 mètres de haut.
J'espère que c'est grand à la maison, parce que.
Oui, c'est assez grand. Ouais. Ouais. Mais eux aussi. Si
ouais.
je veux.
C'est pour ça.
Ils prennent un peu de place, c'est super. Et donc non, je m'apprête pas quand je suis chez moi. Et puis, de toute façon, ça servira à rien. Personne me voit à part moi. Et puis ma femme. Donc bon, voilà. Mais
non,
mais elle, je lui fais un effort quand on est ensemble, quand on se fait des petites soirées en amoureux, mais pas tous les jours.
Bah, pourquoi ?
Elle est en jogging aussi, ne t'inquiète pas.
Ah, c'est décathlon.
Oui, mais quand même, il paraît. Alors, elle est infirmière, votre femme, c'est ça ?
Ouais, infirmière. Mais
quand elle rentre du travail, c'est difficile. J'espère que vous l'accueillez autrement qu'en jogging.
Non, j'accueille en jogging, mais c'est pas l'accoutrement
qui compte.
C'est pas l'habit qui fait le moine. C'est pas l'accoutrement qui fait que je m'occupe bien d'elle ou pas.
Dans vos chansons, ça parle beaucoup de sexe, Kinvé.
Oui, j'aime bien.
Mais comment ça se fait ?
Parce que c'est normal, ça fait partie de la vie.
Il paraît que votre mère, quand elle entend vos chansons, elle fait oh là là, qu'est-ce qu'elle dit, votre mère ?
Ma mère, quand j'ai fait écouter les albums, parce que j'aime bien avoir les avis de ma famille. Et puis ma mère est plutôt honnête, franche. Donc je lui fais écouter à chaque fois qu'elle passe sur une chanson un peu osée. Elle fait oh, tu vas pas mettre ça. Tout était bien avant.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Kinvé, qui va nous parler de son album Thérapie et va nous faire un extrait en live. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Ben H, Léon Dobry, Céline Bérou, Jean-Philippe Vizinier, notre invité, le chanteur Kinvé, venu nous parler de son dernier album Thérapie qui est sorti le 8 mars 2019. Et il y a Thérapie Tour automne 2019, 4 octobre Amnéville, 5 octobre Lille, 6 octobre Dijon, 12 octobre Orléans, 16 octobre Rennes, 18 octobre Clermont, 19 octobre Bordeaux, 20 octobre Nantes, 25 octobre Montpellier, 26 octobre à Pau.
Ouais, et je pense qu'on va rajouter un pari parce que c'était bien et qu'on va en refaire un, je pense.
Et Rouen, non.
Ah si, Rouen, je l'ai fait. Ah si, elle n'a pas été ajoutée, mais c'est le 13 octobre.
Ah oui, vous viendrez avec vos chiens et votre jogging.
Non, je viens sans mes chiens et pas en jogging.
Et là, vous allez nous chanter un extrait en live.
Oui, avec plaisir.
Ça s'appelle ?
Je courais.
On écoute.
Concentré à me faire aimer de gens qui me connaissent pas. Égocentré sur ma carrière, je ne voyais que ça. Papillon de nuit, je laissais la lumière guider mes pas. Toi tu mourais d'ennui et moi je n'étais pas là pour toi. Ce qui change pour moi, c'est que demain le jour se lève. Alors que pour toi il ne se lèvera pas. J'avais des œillères car je courais vers mon rêve. Que je regrette de ne pas avoir été là. Là, là, je courais, je courais. Je remettais à demain. Oui, je courais, je courais. Je remettais à demain. Je courais, je courais. Je remettais à demain. Toi qui es tombé égoïstement, je vivais mon rêve à 200%. Jusqu'à oublier que pour moi tu as toujours été présente. Tristement j'ai appris que tu avais rejoint le Tout-Puissant. Je viendrai te chercher pour te dire ce que je n'ai pas pu de ton vivant. Ce qui change pour moi, c'est que demain le jour se lève. Alors que pour toi il ne se lèvera pas. J'avais des œillères car je courais vers mon rêve. Que je regrette de ne pas avoir été là. Là, là, je courais, je courais. Je remettais à demain. Oui, je courais, je courais. Je remettais à demain. Je t'ai déçu, pardonne-moi mes absences. Si tu savais comme je m'en veux. Pardonne-moi, j'étais perdu. Je n'ai pas saisi l'importance. J'aurais tant aimé te dire adieu. Parce que je courais, je courais. Je remettais à demain. Je courais, je courais. Je remettais à demain.
Merci Kinvé. Alors il paraît que vous avez beaucoup aimé faire Danse avec les Stars. Ça a été une formation.
Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le terme que j'aurais employé. Non.
Aimé, non.
Non. Non, j'ai pas.
Vous avez beaucoup appris.
Non plus. Ça,
non plus. Non plus.
Non.
Vous y étiez là, quoi.
Ouais, j'étais présent.
Ouais, vous n'avez pas trop kiffé, en vrai.
Non, c'est pas que j'ai pas trop kiffé. C'est, j'ai pas. En fait, on m'a prévenu vraiment au dernier moment, donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'entraîner et tout. J'étais un peu pris au dépourvu et j'ai pas profité de l'expérience comme j'aurais dû, je pense.
Ça vous a fait faire des progrès sur scène, du coup?
Bah, je danse pas sur scène, donc.
Bah, vous bougez un peu.
Oui, je bouge, mais j'ai pas eu besoin de Danse avec les Stars pour bouger.
Oh, d'accord.
Mais non, mais bouger, c'est pas de la danse. En fait, en vrai, en plus, si tu veux, c'est pas quand tu fais Danse avec les Stars, le problème qu'il y a, c'est que moi, j'aurais bien aimé faire des cours de danse avant, parce que on t'apprend des chorégraphies, on t'apprend pas à danser. Et moi, ce que j'avais, c'était un problème de danse. C'est que on me disait, on va faire un cha-cha. On peut avoir les bases, s'il vous plaît, juste des pas. Donc c'était hyper compliqué. Il fallait que j'apprenne la danse et après la choré.
Tout en même temps.
Ah, c'était l'enfer.
Et on vous a proposé de faire du cinéma, la télévision?
Non.
Jamais?
Non.
Pourtant, vous avez un bon physique, Kinvé.
Je ne sais pas si j'ai un bon physique, mais.
Si. Vous êtes jolie.
Ouais, c'est gentil, mais non, on
elle
m'a
passe
pas.
Passe à l'attaque. Ouais,
pourquoi il s'appelle Thérapie, cet album, Kinvé?
Parce qu'en fait, au décès de ma grand-mère, je m'en suis voulu parce que c'était un mardi. Je devais aller la voir le mardi. J'ai plombé l'ambiance, je vous préviens. Je devais aller voir le mardi, je l'ai appelé en lui disant écoute, je suis un peu fatigué, je reviens de tourner, je viendrai te voir demain, si t'embêtes pas, mais elle, toute mignonne qu'elle est, elle me dit oui. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de lendemain. Et je m'en suis voulu parce que je me considère pas comme égoïste, et puis j'aime vraiment. Moi, je suis plutôt là pour les gens en général. Et j'ai pas été là pour la personne qui a été le plus là pour moi. Donc je m'en suis énormément voulu. Et j'ai eu besoin de l'écrire, et quand je l'ai écrit, ça m'a fait comme une thérapie. Et je me suis dit. Si je faisais tout un album où je mettais sur papier tout ce qui me faisait du mal, tout ce qui me faisait du bien, et au final, ça pourrait peut-être être une thérapie aussi pour les autres qui l'écoutent. Donc c'est pour ça que je suis en patient et en thérapeute sur la pochette.
Mais en même temps, c'est pas de votre faute si.
C'est pas de ma faute, mais ça m'empêche que ça ne m'enlèvera pas la culpabilité de ne pas être allé la voir ce jour-là. J'aurais pu en fait. Si tu veux, si je retourne en arrière, je me dis que oui, j'étais fatigué, oui, j'avais fait trop de route le week-end parce que j'étais en tournée. Mais j'aurais pu y aller, elle habite à une demi-heure de chez moi, j'aurais pu faire l'aller-retour, ça m'aurait pas tué en fait. C'est ça en fait là où ce que j'ai vraiment du mal à vivre, c'est ça. C'est vraiment ce côté où Je sais pas, ça aurait peut-être rien changé, effectivement.
Mais elle était pas malade spécialement.
Non, elle était pas. Mais c'est justement ça le problème, c'est qu'elle aurait été malade. Là, pour le coup, j'y serais allé. C'est ça, en fait. C'est plein de trucs où je m'en veux. Mais enfin, c'est un sentiment de culpabilité que j'aurai toute ma vie. Et pourtant, dans La Vie du Bon Côté, qui est un de mes morceaux qui a le plus marché, je dis toujours, j'espère ne pas avoir de regrets à 40 ans, parce que je suis très carpe diem. Et là, pour le coup, j'en aurai un gros. Et j'aurais, peu importe ce qu'on me dira, j'arriverai pas à l'enlever.
Kinvé, vous dites, j'aurais pu être pompier ou psy. Ce sont deux métiers où tu aides des gens, et j'aime bien cette idée.
J'ai été pompier hein, 2 ans.
Pendant 2 ans,
pompier. Ouais, j'étais pompier volontaire pendant 2 ans et j'étais parti pour faire des études de psy. Donc ça tombe bien pour la thérapie, écoute.
Et chanteur, ça vous aide à faire tout ça? Vous allumez le feu, vous l'éteignez?
Non, ou... ouais, alors c'est très belle métaphore. Ouais, non, ouais, c'est vrai qu'on allume le feu quand on est sur scène, mais c'est plus le côté. J'ai vraiment l'impression que quand on. Moi, j'ai l'impression d'avoir réussi ma soirée quand les gens repartent avec le sourire. Mm-mm. C'est encore mieux quand on les fait rire, évidemment, mais moi, s'ils se sont évadés pendant ne serait-ce que pendant 2 heures et qu'ils ont oublié tous leurs problèmes en repartant, j'ai l'impression d'avoir gagné. Donc c'est comme si je leur faisais ma thérapie, et puis que c'est comme le côté pompier quand on aide les gens. J'ai cette sensation là, moi, ça me fait
en
ça.
En tout cas, nous, ça nous a fait très plaisir d'écouter votre album et vous recevoir. Merci ouais. Kinvé d'être passé nous voir. On rappelle l'album Thérapie, le tour Thérapie Tour automne 2019.
Europe.
Dans quelques instants, c'est Jacques Attali qui sera notre invité. Merci à vous, Kinvé.
Merci.
Midi 30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 avec Ben H, Lalando, Christine Bérou, Jean-Philippe Vizini et notre invité qui est un des hommes les plus intelligents de ce pays.
Du monde, si vous le dites.
Il s'est fait connaître comme conseiller spécial de François Mitterrand. On lui doit depuis plus de 70 essais, biographies ou romans. Aujourd'hui, quand il ne parle pas d'économie positive, il est chef d'orchestre à ses heures perdues. Ce matin, il vient nous parler de son nouveau livre « Histoire de l'alimentation » aux éditions Fayard. L'économiste, artiste Jacques Attali, et très conseiller spécial, est avec nous sur Europe 1. Bonjour Jacques Attali.
Bonjour Anne.
Jacques Attali, vous avez conseillé François Mitterrand, tout le monde le sait, mais vous avez été aussi le mentor d'Emmanuel Macron. À un moment, c'est vous qui l'avez présenté à François Hollande. Vous regrettez aujourd'hui ?
Non, pas du tout. Il a été mon collaborateur dans la commission que Nicolas Sarkozy m'avait demandé de présider. Et j'ai, en effet, je l'ai présenté à François Hollande. Je ne le regrette pas du tout. Je suis très heureux qu'il soit président de la République aujourd'hui et je lui souhaite le plus grand succès.
Et oui, alors, il ne vous demande plus de conseils là ?
Qu'en savez-vous ?
Ah, bah alors, est-ce qu'il écoute vos conseils ? Parce qu'il paraît qu'il demande des conseils à Nicolas Sarkozy et qu'il ne les écoute pas.
Ah, mais ça reste entre lui et moi.
Vous faites 50 minutes de sport par jour aussi, oui. Jacques Attali, en regardant des séries télé ?
Exactement.
Ah, vous avez un vélo d'appart ?
J'ai un vélo d'appartement et je regarde des séries télé devant. C'est ma seule forme de déculpabilisation pour regarder des séries.
Et vous regardez quoi en ce moment ?
Traitors, une merveilleuse série anglaise sur la... ce qui s'est passé en 45 quand...
C'est des séries Jacques Attali quand même, hein. C'est pas Game of Thrones quoi.
Je sais pas, ce que je regardais aussi Downton Abbey avec passion, hein. Mais là je suis tombé sur celle-là qui est très bien, voilà. Je vous la conseille, c'est vraiment une série passionnante.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans les années qui viennent, Jacques Attali? Vous avez déjà fait tellement
bonne
de choses.
Bonne question, moi je pense assez peu à mon passé, je pense à l'avenir. D'abord je publie ce livre et j'ai encore une dizaine de livres dans ma tête et en chantier, donc j'ai d'abord tous ces livres qui sont devant moi. Et puis, je voudrais continuer à diriger des orchestres. J'ai commencé à faire de la mise en scène d'opéra. J'adore ça. J'en ai fait 2. Je serais ravi d'en faire d'autres. Ma fondation me prend beaucoup de temps. C'est peut-être l'essentiel. Et donc, ce que je voudrais faire dans les 30 ans qui viennent, c'est de continuer à développer la fondation que je préside, la passer à d'autres et faire en sorte qu'elles soient encore plus utiles puisqu'elles sont...
Parlez-en de cette fondation.
Positive Planète, c'est une fondation qui travaille
Positive
dans...
Planète.
Positive Planète.
C'est ça qui vous manque pour finalement être un homme politique, c'est de parler d'une manière plus... Vous êtes trop modeste, Jacques Attali. Vous n'avez parlé qu'une petite voix.
Les faits parlent. Ah non, ça c'est volontaire. Je parle d'une petite voix parce que ça force à m'écouter.
Ça c'est quand on met en mur à l'oreille des présidents.
Oui. Non, c'était une technique quand j'étais prof dans les écoles où j'ai enseigné. Je parlais doucement et je parle toujours doucement quand je fais une conférence pour qu'on m'écoute. Cette fondation Positive Planète, c'est une fondation qui travaille à créer les conditions pour que le monde soit meilleur pour les générations futures. Nous faisons ça en aidant les plus pauvres un peu partout à travers le monde à ne pas dépendre de la charité en créant leur propre entreprise. On fait ça dans 45 quartiers en France, dans 40 pays à travers le monde. Et aussi, nous aidons les pays, les entreprises, les territoires à penser l'avenir et à créer les conditions pour que leurs actions soient utiles aux générations futures.
Ça, c'est votre cheval de bataille, cette fondation Positive Planète.
Oui, c'est quelque chose qui m'occupe depuis 20 ans, beaucoup, beaucoup, et qui est en train de prendre de l'ampleur et qui me ravit. J'ai vraiment l'impression de faire quelque chose d'utile.
Plus que quand vous conseillez les présidents qui ne vous écoutent pas ?
Non, j'ai conseillé François Mitterrand avec des listes pendant 10 ans dans l'opposition, 10 ans au pouvoir, et on a fait beaucoup de choses, et je suis fier de tout ce qu'on a fait avec joie. D'ailleurs, beaucoup, enfin, ceux qui sont là, qui n'étaient pas nés à cette époque, n'imaginent pas ce qu'était le monde de 1980. Par exemple, j'ai encore entendu récemment des gens qui disent « C'est un scandale, vous avez réduit l'âge de la retraite à 60 ans, c'est une démagogie totale », en oubliant qu'à cette époque, l'âge de la retraite était à 65 ans, et que l'espérance de vie d'un ouvrier à 65 ans, c'était moins d'un an. Donc il était évident qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, l'espérance de vie est 10 ans plus élevée qu'en 1981, donc il est normal qu'on puisse penser à allonger, retarder l'âge de la retraite. Mais je suis très fier de ce que... Alors, est-ce que je suis écouté dans mon action? J'espère être aussi et surtout écouté par mes livres, parce que c'est là où vraiment où je m'exprime.
Et vous dites que vous en avez une dizaine encore en tête. Le prochain, celui qui vous le tient le plus à cœur, c'est lequel?
Le prochain, c'est un roman. J'adore écrire des romans. Et c'est un roman. Voilà.
Une histoire d'amour?
C'est une histoire d'amour, mais elle se mêle dans un... C'est le troisième d'une série de romans policiers que j'ai commencé.
D'accord.
Et donc, qui prend une dimension amoureuse très forte. Voilà.
Mais vous êtes, ça donne des complexes de vous écouter Jacques Attali quand même.
J'espère bien.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jacques Attali, venu nous parler de son dernier livre, Histoire de l'alimentation, qui vient de sortir aux éditions Fayard. Ne bougez pas.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Ben H. Lalonde, Christine Miroux, Jean-Philippe Vizini. Et notre invité Jacques Attali veut nous parler de son dernier ouvrage, Histoire de l'alimentation. De quoi manger est-il le nom aux éditions Fayard? Alors, il y a un S à histoire parce que vous aussi, quand il s'agit de régime, vous racontez beaucoup d'histoires, Jacques Attali. Vous posez beaucoup de questions dans ce livre. Que mangeaient les hommes il y a 10 000 ans? Que mangeront les humains dans un siècle?
Non, je raconte dans ce livre énormément d'histoires de la façon dont les hommes sont nourris depuis 500 000 ans. Il y a 10 000 ans, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, il y a un siècle. Et aujourd'hui, comment progressivement nous sommes passés à une nourriture industrielle? Et qu'est-ce qu'on pourra manger dans 10 ans encore? Ou dans 50 ans, quand nous serons 10 milliards sur cette planète, est-ce qu'on pourra encore se nourrir? Et là, et comment? Et là, on voit que, d'abord, il y a une chose très importante, c'est que la nourriture n'a pas de sens indépendamment de la conversation. Parce que le repas est le lieu principal de la conversation. On parle d'abord et surtout quand on mange. Et comme c'est le lieu principal de la conversation, c'est le lieu principal du pouvoir. Parce que c'est là que se dessine et s'organise le pouvoir. Et à travers les siècles, on voit que le pouvoir s'est organisé autour des repas. Repas de princes, repas de rois, repas de dieux, puis repas d'affaires. Et qu'aujourd'hui, partout à travers le monde, avec une exception française un peu particulière, mais qui malheureusement rejoint le courant général, la durée des repas se réduit, le petit déjeuner a pratiquement disparu, le déjeuner a pratiquement disparu, reste un peu le dîner, qui accélère et participe de la rupture des familles, et qui participe de la réduction du temps de la conversation. On est de plus en plus seul, et le repas en étant le support. Et ceci pour une raison très profonde, c'est que l'économie de marché, qu'on appelle aussi l'économie capitaliste, n'a pas besoin du repas. Le repas est un endroit subversif où on parle sans acheter, sans produire, donc c'est très mauvais pour l'économie de marché. Et donc depuis un siècle, l'économie de marché, qui domine la planète aujourd'hui, a tout fait pour que le repas soit le plus court possible, le moins cher possible, pour qu'on puisse garder de l'argent pour faire autre chose, et donc a tout fait pour que la nourriture soit la plus industrielle possible.
C'est quoi l'avenir alors, Jacques Attali? Vous dites robots, les insectes?
Il y a deux avenirs possibles. Il y a l'avenir qui est la continuation du présent, et puis un avenir volontaire. Qui pourrait être différent. L'avenir, qui est la continuation du présent, on le voit bien, si on prend les langues, c'est pour ça que j'ai raconté l'histoire très longue, on voit bien que les 50 prochaines années s'inscrivent dans ce courant, c'est la disparition du repas collectif, c'est la fin de la salle à manger, c'est la fin même de la cuisine, puisqu'on achètera tout fait. C'est...
Je suis très tendance, alors.
Je suis déjà dans le futur.
Ouais, moi aussi, j'ai 10 ans d'avance.
C'est... dans votre génération, c'est déjà le cas. C'est le fait de manger que des produits industriels. Ce qu'on mangera, c'est de plus en plus des sortes de drogues alimentaires, sous forme de pilules, d'insectes. Il y a aujourd'hui 2 milliards de personnes qui mangent des insectes. Les chiffres sont vertigineux.
Vous en avez déjà mangé, Jacques Attali ?
Vous aussi. Parce que dans
les
bonbons, dans les boissons dans très connues, les boissons très connues qui s'appellent quelque chose cola, il y en a.
Ah bon?
Il y en a dans plein de choses. Les Européens sont évidemment ceux qui en mangent le moins, mais ils en mangent quand même et ils vont en manger de plus en plus.
Vous pensez que la France est un pays ingouvernable, Jacques Attali?
De Gaulle aurait dit que la France est ingouvernable parce qu'elle a 400 fromages et qu'un pays qui a 400 fromages n'est pas gouvernable. c'est une jolie phrase. Et c'est vrai que la France a une telle diversité, en particulier alimentaire, qui est gigantesque, qu'elle est très difficile à gouverner. En réalité, la France est un pays très particulier. Je disais tout à l'heure qu'en matière alimentaire, c'est le pays qui résiste le mieux. La durée des repas est plus longue en France que partout ailleurs dans le monde. La nourriture française était reconnue comme trésor de l'humanité. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on est vraiment un petit îlot. C'est vraiment là où le village gaulois existe. Maintenant, ça a comme conséquence le fait que nous sommes un pays rural. Et un pays rural, c'est un pays qui, pour des tas de raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, c'est un pays qui n'évolue pas de façon continue, mais qui évolue par révolution. La France fait des révolutions, on ne fait pas de réformes. Et donc, nous avons fait toute une série de révolutions tout au long de notre histoire.
Les Gilets jaunes, c'est une révolution, Jacques Attali ?
C'est les prémices de ce qui pourrait être une révolution, oui. Ça renvoie une colère très profonde.
Mais ce n'est pas fini, les Gilets jaunes, d'après vous ?
Non, je ne crois pas du tout. Il y a une colère extrêmement profonde, extrêmement justifiée, qui renvoie au fait que les classes moyennes les plus modestes se sentent sans avenir et surtout sentent que leurs enfants n'ont pas d'avenir, ce qui renvoie à votre question précédente. Si on, soi-même, on trouve que notre vie n'est pas très réussie, on peut s'en consoler si on crée les conditions pour que la vie de ses enfants soit réussie. Si en même temps, on pense que la vie de ses enfants ne peut pas réussir non plus, là, ça devient...
Donc il y a un manque d'espoir dans la société française, en fait.
C'est une société qui est pessimiste, non pas parce qu'elle est pauvre, mais parce qu'elle est riche. Et donc elle pense qu'elle va décliner. Et c'est une société qui est pessimiste aussi parce qu'elle est très injuste et qu'une très grande partie des classes populaires ne sentent pas d'avenir possible pour leurs enfants. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est pour ça que la réforme de l'ENA n'est qu'une superstructure de changements très profonds qui sont vraiment très difficiles à mettre en œuvre, mais qui sont absolument nécessaires, puisque depuis 40 ans, les inégalités, non pas de revenus qui ont diminué, mais les inégalités d'espérance d'une génération à l'autre sont beaucoup aggravées.
Il y a des solutions, Jacques Attali ?
Les solutions, elles sont dans l'éducation, elles sont dans la formation permanente, elles sont dans le fait que...
On vous sent un peu découragé, quand
même.
Non,
pas du tout. Je pense que c'est tout à fait possible. Ma fondation, nous travaillons dans ce qu'on appelle l'économie positive, c'est-à-dire travailler pour que ça soit possible. Et on le voit tous les jours. Moi, je le vois dans les... Quand je suis dans un quartier et que je vois des jeunes qui n'ont pas fait d'études, mais qui ont une niaque incroyable et qui ont envie de réussir et qu'on les aide à réussir et que en quelques séances de travail, on leur met le pied à l'étrier, c'est formidable. Tout à fait possible. J'en vois sans cesse des gens comme ça.
On a l'impression que vous n'êtes pas non plus partie des majoritaires dans les économistes actuels, quoi. Pensez aux jeunes de banlieue, pensez à l'égalité, etc. On n'a pas l'impression que ce soit une grande priorité chez les économistes, en tout cas sur les théories qu'on entend depuis 50 ans, quoi.
Oui, les économistes, il y a toutes sortes d'économistes.
C'est ça, il y a tout.
Il y a tout. Et puis, vous pensez plus à ceux qui dirigent l'économie qu'aux économistes proprement dit. Les économistes sont plutôt à gauche, si on veut. Mais moi, je reste un homme de gauche.
C'est rarement celles-là qui sont appliquées.
Absolument.
C'est celles qu'on entend, mais ce n'est pas celles qu'on voit.
Exactement.
Et c'est quoi, du coup? Comment on fait pour s'imposer? Parce qu'on ne peut pas plus s'imposer que vous, pourtant, j'ai l'impression.
vous voyez, je fais ce que je peux et je continue. Et je continuerai autant que j'en aurai la force. Vous savez, il y avait un homme très intéressant qui s'appelait Karl Marx. Je vais être un peu pédant, mais c'est important. On lui avait demandé son avis sur un programme politique qu'il trouvait nul. C'est le programme du Parti socialiste allemand. Il a écrit son commentaire qui tombait nul. Mais en même temps, comme il pensait que ce qu'il disait n'aurait aucun impact, il avait mis mystérieusement à la fin de son texte ces quelques mots en latin « Dixi et salvavi animam meam ». Je dis ça, mais c'est juste pour sauver mon âme.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jacques Attali, venu parler de son dernier ouvrage « Histoire de l'alimentation » qui vient de sortir.
S'il vous plaît, c'est pas mon dernier, c'est le plus récent.
Excusez-moi.
Ça, c'est pas
le plus récent ouvrage.
Mais non, mais parce que si vous dites le dernier, ça voudrait dire que j'en ai plus après.
Ah, ouais, de son plus récent ouvrage.
Il a raison. Tu vas
Histoire de l'alimentation aux éditions Fayard.
J'espère qu'il y en aura un autre.
Ne bougez pas en revient.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Ben H, Lalonde, Christine Béroux, Jean-Philippe Bizini et notre invité Jacques Attali veut nous parler de son de récent ouvrage.
Mais je vous dis ça pour tous vos invités, vous devriez y penser pour les autres.
Ce, bah oui,
c'est mais pas j'ai... leur dernier disque.
Nous, à chaque fois, on les enterre.
Même si parfois, on aimerait que ce soit le dernier.
Jacques Attali, vous dites qu'il va y avoir une crise économique majeure, mais vous ne pouvez pas dire quand.
Non, on ne peut pas dire quand.
Vous dites que ça peut être dans les 6 mois ou les 5 ans.
Voilà. Oui, on ne peut pas dire quand, mais simplement ce qui s'est produit depuis la dernière crise de 2008, c'est qu'on n'a rien fait d'autre que de retarder l'échéance. On a augmenté la dette, on a... rien réglé, donc un problème de structure à l'échelle de la planète. On applique cette formule d'un homme politique français qui s'applique d'ailleurs aussi à notre vie quotidienne. Si on réfléchit à chacun d'entre nous, nous sommes tous en situation de ne pas vouloir régler les problèmes, préférer les reporter, attendre. Ça s'appelle le langage d'un mot pédant, procrastiner. Tout le monde procrastine. Il y avait un homme politique français qui a d'ailleurs une carrière assez honorable, qui avait résumé ça en disant: il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Et c'est complètement faux. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait dans notre vie quotidienne. Et la crise économique qui nous menace, c'est ça. On ne veut pas résoudre les problèmes de fond d'une économie mondiale qui a besoin d'être réparée, de mettre de l'ordre, en particulier sur les questions de justice sociale et d'écologie. Comme on ne veut pas régler les problèmes, on les retarde, on emprunte et on laisse ça aux générations futures. On emprunte de l'argent, on emprunte des ressources.
Donc vous dites qu'il va y avoir une crise économique majeure.
Il y en a déjà, il va encore en prendre un coup.
Il y en a une qu'on a résolue simplement en empruntant et la prochaine, ce sera encore la même chose sans doute, mais ce sera plus difficile d'emprunter. Si
c'est pas terrible, Jacques Attali, de voir venir des catastrophes, de prévenir les gens et finalement personne ne vous écoute.
Ça dépend, parfois, oui. Alors,
vous n'avez pas des moments de découragement, Jacques Attali ?
Le pire, c'est quand on me reproche ce que je prévois, quand on croit ou veut faire croire que je souhaite ce que je dénonce. Alors qu'en fait, je le dénonce pour que ça n'ait pas lieu. Mais parfois, on y arrive quand même. On arrive à faire en sorte de prédire assez tôt pour faire en sorte que ça n'ait pas lieu. D'autant plus qu'il y a des solutions. C'est tout à fait possible d'empêcher cette crise-là. C'est tout à fait possible d'y arriver.
Oui, mais pourquoi justement, alors dans la société française, tout le monde fait des constats de ce qui ne marche pas et personne n'est d'accord sur les solutions. Et pourquoi elle est irréformable, cette société française, Jacques Attali ?
D'abord, les problèmes dont on vient de parler sur la crise ne sont pas spécialement français. Ils sont mondiaux et ce n'est pas à l'échelle de la France qu'on pourra les résoudre tout seul. Mais les problèmes de la société française tiennent à essentiellement à cela. La France est un pays très riche. Très riche. Il y a des Français très pauvres. Il y a 7-8 millions de Français au moins qui sont très pauvres. Mais la France est un pays très riche et donc il y a toujours le sentiment que ça ira. Que ce n'est pas la peine de faire des efforts, de réformes. Ça ira toujours. Et donc les problèmes s'accumulent parce qu'on ne fait rien. Et en particulier les problèmes écologiques, les problèmes de... Mais en même temps, et c'est le président Obama qui l'a dit en venant récemment en Europe, nous sommes privilégiés à l'échelle de la planète. Nous sommes... Non seulement nous, Européens, collectivement privilégiés, mais nous, Français, en Europe, particulièrement privilégiés. C'est la liste de là où nous sommes les privilégiés en termes d'espérance de vie, de qualité de vie, de qualité de l'environnement, d'absence de pollution par rapport au reste du monde, c'est immense. Et ces privilèges font qu'on est un peu crispé. On dit, oulala, est-ce qu'on va réformer ? Ça peut être pire, donc on n'y touche pas. Et c'est pour ça, je crois, qu'on ne réforme pas. On ne réforme pas parce qu'on a des soucis qu'on a. On ne réforme pas parce qu'on a conscience que nous sommes des privilégiés, collectivement, je ne dis pas individuellement. Il y a beaucoup de pauvreté en France.
Ça ne vous décourage pas, Jacques Attali, cette inertie des politiques ?
Moi, du tout. D'abord, j'ai choisi de ne pas l'être, donc c'est de ma faute.
De ne pas être politique ?
Oui, j'ai choisi.
Est-ce que vous auriez fait mieux que les autres, Jacques Attali ?
Je ne sais rien. J'ai choisi, en tout cas, de ne pas l'être. Et en plus, je pense qu'aujourd'hui, et c'est ainsi, on l'a voulu et on l'a fait, le politique a moins de pouvoir qu'avant. François Mitterrand avait du pouvoir, les présidents qui ont suivi ont beaucoup, beaucoup moins de pouvoir. Donc, il ne faut pas reprocher au président de la République des choses qu'il ne peut pas faire. Le pouvoir est aujourd'hui disséminé, il est dans les régions, les villes, les entreprises, les ONG. C'est pour ça d'ailleurs que je m'occupe d'ONG plus que d'autres choses, parce que là on a vraiment des moyens d'agir, que j'essaye d'écrire des livres, parce que je pense que l'importance de l'influence principale, c'est par les esprits qu'on peut les toucher. Parler d'alimentation, c'est une façon de faire en sorte de montrer à tout le monde que dans ce qu'on a de plus quotidien, et triplement quotidien, parce qu'on mange au moins 3 fois par jour, il y a de la politique, fondamentalement, que ce qu'on mange nous détermine politiquement.
Excusez-moi, je reviens sur la phrase que vous avez dit, les politiques, les pouvoirs ont de moins en moins de pouvoir. Oui. Mais c'est pas nous qui les forçons à nous faire des promesses énormes à chaque fois, s'ils ont
bien
conscience de ça.
Bien sûr que si, c'est vous qui les forcez.
Alors, sinon tu votes pas pour eux.
Peut-être oui, mais enfin, au final, c'est normal qu'on soit... Ils ont conscience, eux, qu'ils n'ont pas de pouvoir ou pas.
Si un candidat à l'élection présidentielle venait vous dire, écoutez, vraiment aucun pouvoir. Je, ouais. Si vous m'élisez, je pourrais
je ferai de mon mieux, mais ça marchera pas.
Si c'est ça la vérité, c'est, on est vraiment dans un grand spectacle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils le savent. Donc, nous, on le sait aussi qu'ils n'en ont pas. On espère.
J'ai dit qu'ils ont moins de pouvoir. Moins de pouvoir.
Pas qu'est-ce qu'il dirait un homme politique sincère, Jacques Attali? Il dirait Non, mais il pourrait dire je ne peux rien faire, élisez-moi.
Non, je n'ai pas dit je ne peux rien faire. Je dis.
Je vais essayer.
Je peux moins qu'avant. Le président de la République d'aujourd'hui a beaucoup moins. Il peut dire. Voilà où nous devons aller. Tout seul, je ne peux pas. Mais si vous êtes avec moi, si les régions, les villes, les entreprises, si nous travaillons tous dans la même direction, on peut y arriver. Voilà ce qu'il dirait.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Jacques Attali, venu nous parler de son plus récent ouvrage, Histoire de l'alimentation, aux éditions Fayard. Ne bougez pas.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Ben H, ouais. Léa Landau, Christine Béroux, Jean-Philippe Bizini et notre invité Jacques Attali veut nous parler de son plus récent ouvrage, oui. Histoire de l'alimentation aux éditions Fayard. Alors Jacques Attali, en 2007, Nicolas Sarkozy vous a demandé de rédiger un rapport fournissant des recommandations et des propositions afin de relancer l'économie française. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne l'a pas lu? Vous avez fait une photocopie pour Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron était lui-même dans cette commission en plus.
Oui, il était rapporteur de cette commission. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai rencontré et qu'ensuite j'ai.
Vous avez eu un coup de foudre pour lui.
Disons beaucoup d'admiration intellectuelle, oui, et beaucoup d'amitié. Nous sommes devenus très très amis. Mais Nicolas Sarkozy a évidemment lu ce rapport. D'ailleurs, il avait dit publiquement je l'appliquerai intégralement. Puis ensuite, il a dit je l'appliquerai intégralement, sauf trois mesures, trois propositions. D'ailleurs, il avait passé en revue tout ça en direct à la télévision. Et puis ensuite, il l'a appliqué qu'une toute petite partie. La raison pour laquelle qu'il m'a donné pour ne pas faire plus, c'était la crise de 2008 précédente. Je crois que c'est une mauvaise raison, parce qu'au contraire, on réforme plus facilement quand on a une situation difficile que quand on est en situation d'euphorie. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Quand tout va bien, on ne fait rien. Quand tout va mal, on peut faire des choses.
Léa Landau a des questions à vous poser, Jacques Attali.
Oui, Jacques Attali. Alors, la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission avec Anne Romanoff, je vous avais écrit une chronique, Attali président. Aujourd'hui, en fait, je me dis que vous pourriez vraiment, à minima, monter un nouveau parti écolo avec votre fondation Positive Planète et votre livre Histoire de l'alimentation. Vous parlez de nourriture, je vous ai donc préparé une interview aux petits oignons. Jacques Attali, la politique actuelle, à votre avis, c'est comme une sauce très relevée qu'on a du mal à digérer? Comme une sauce qui a tourné, qui nous rend malade, ou plutôt une sauce périmée?
Une sauce sans plat, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est une sauce, mais le plat n'est pas encore...
C'est une sauce qui ne prend pas pour le moment.
Disons que c'est les premières réformes ont été faites, ensuite ça s'est arrêté à cause de tout ce qui s'est passé, et que ce qui s'annonce pourrait être pas mal, mais il y a eu une tragédie il y a quelques jours, comme vous savez, qui a retardé le deuxième plat du service. Donc on est dans une pause dans le repas, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, parce qu'il faut prendre son temps dans un repas.
Alors, beaucoup, dont les gilets jaunes, se demandent quel ingrédient il faudrait pour que le dur Macron devienne un doux macaron. Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre, Jacques Attali?
D'abord, les gilets jaunes incarnent assez bien ce que je dis dans ce livre sur l'alimentation, c'est que les gens se sentent seuls et veulent trouver des occasions d'être ensemble. Et il y avait dans les gilets jaunes, au départ, le désir d'être ensemble, de passer du temps ensemble. D'ailleurs, ça s'est traduit par des repas sur les ronds-points, et c'est, à mon avis, peut-être une des dimensions essentielles. Retrouver, le plus subversif, c'est retrouver du temps pour être ensemble. Et je pense que le vrai politique, ce serait celui qui créerait les conditions pour que les gens aient du temps pour être ensemble, et du plaisir pour être ensemble.
Pour sauver le monde, Jacques Attali, il vaut mieux lutter contre l'huile de palme ou développer l'huile de coude?
Les deux.
Ouais.
Les deux.
Avec qui souhaiteriez-vous partager un dîner en tête-à-tête?
Bien, j'adorerais partager un repas avec Woody Allen.
Ouais. Alors, on dit qu'il faut se laver les mains avant de passer à table, mais vous ne trouvez pas que ceux qui préparent le menu ont les mains sales aujourd'hui?
Non, il ne faut pas discréditer la politique comme ça. D'abord, la plupart des politiques sont des gens qui veulent servir l'intérêt général, vraiment, et qui le font. En particulier, je pense à tous les maires de petites communes, tous les gens qui sont maires, ou même les parlementaires. Les parlementaires d'aujourd'hui, les nouveaux parlementaires, ne sont pas des gens qui sont animés par un intérêt, ce sont des gens qui veulent vraiment changer le pays.
Et enfin, pour terminer, si nous étions en train de partager un bon repas tous ensemble ce midi, ici même, Jacques Attali, quel toast aimeriez-vous porter?
À la vie.
Eh bien, à la vie. Merci, Jacques Attali.
Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
Jacques Attali, nous avons une tradition dans cette émission. Nous démarrons une histoire le lundi. Elle est poursuivie par l'invité du mardi, mercredi, jeudi. L'histoire a été démarrée lundi par Patrick Sébastien, mardi poursuivie par Jean-Christophe Granger, mercredi par Cali, hier par Chaim. À vous de la clôturer aujourd'hui, puisqu'on est vendredi, avec un mot imposé, pioché dans ce chapeau. Lisez le mot. Comment ? Banquier ?
Manger.
Ah, manger. Manger. Et donc vous allez écouter l'histoire. Il faut clôturer cette histoire en employant le mot manger.
J'étais assis sur un banc devant un coucher de soleil. Il n'y avait rien d'exceptionnel et je me suis dit, c'est que du bonheur.
C'est alors que les arbres se sont mis à dessiner des ombres de profil de loup et je commençais à avoir très peur.
Alors, il paraît que c'était des choses défendues, mais nous nous sommes mis quand même tout nus et nous avons chanté. J'ai appelé les chanteurs que j'aimais, Tom Waits, Bob Dylan, Bono, Patti Smith, Mick Jagger et David Bowie. Et tout nu, nous sommes descendus là au milieu de la piste et puis il y avait Léo Ferré qui nous attendait et on était juste heureux.
Et là j'ai vu Léo Ferré et je lui ai dit, toute nue évidemment, je lui ai dit danse, danse, fais-moi une samba, fais-moi un jive, fais-moi tout ce que tu veux.
Et là je rassemble tous ces gens si merveilleux, vivants et morts, et nous allons manger ensemble l'arbre de la vie.
Merci Jacques Attali d'être passé nous voir. On rappelle votre plus récent ouvrage, Histoire de l'alimentation, aux éditions Fayard. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. Nous, on sera de retour dès lundi à 11h sur Europe 1.